Je vais vous parler aujourd'hui de l'atteinte aux générations futures. Nous avons questionné le discours qui consiste à dire qu'une génération ou plusieurs générations ont atteint les générations futures. Parce que, en droit, il faut du pragmatisme. J'ai appris cela en gagnant 7 procès. Notre équipe et que j'ai représentée et le CRIGEN ont gagné 7 procès contre les lobbies diffamateurs qui font les pesticides, les OGM, les produits chimiques, les produits pétrochimiques, les nanoparticules et les plastifiants. Vous savez que les plastiques et les pesticides viennent du pétrole et que la pétrochimie est nécessaire à l'agriculture industrielle et à l'agroalimentaire d'aujourd'hui. Plus de 107 additifs pétrochimiques sont ajoutés dans le pain ou le tabac, par exemple. Et donc, nous avons questionné le fait, a-t-on le droit de dire que notre génération est responsable de l'atteinte aux générations futures ? Pour ce faire, comme je suis biologiste, tout simplement, même si j'ai beaucoup de plaisir à travailler en transdisciplinarité, nous avons analysé les gènes des fœtus humains d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a un bébé. À la naissance, en prenant les cellules du placenta et du cordon ombilical, on arrive à appliquer des méthodes qui permettent de voir l'ensemble des produits artificiels collés sur les gènes du fœtus, les polluants, qu'on appelle aussi xénobiotiques, xénobiotiques en anglais. Plus de 400 par génome de cellules humaines, produits qui ont été essentiellement commercialisés depuis la Seconde Guerre mondiale, qui n'existaient pas auparavant sur les gènes humains. Ils habillent le génome et ont des effets qu'on appelle épigénétique ou transgénérationnel. Épigénétique, cela veut dire au-dessus du génome, qui couvre le génome et qui se transmet aussi de manière héréditaire, mais beaucoup plus fluide que le génome lui-même, qui est le disque dur, tandis que ces produits sont des clés USB qu'on apporte et qu'on enlève à chaque génération, mais dont certains éléments peuvent se copier sur le génome. Alors, pour le faire, nous avons regardé ces polluants, et ces polluants appartenaient, quand on a pris les 10 premiers, les 10 plus importants des 400, qui représentaient environ 60% des produits en quantité, ils appartenaient à 8 grandes multinationales, consortiums de pétrochimie, qui sont ceux qui dirigent l'agroalimentaire, les semences, les OGM, les pesticides, les médicaments, les nanoparticules et les plastifiants, puisque tout vient du pétrole. On a donc focalisé les responsables d'une génération à 8 réseaux financiers. Et il se trouve, je ne les connaissais pas spécialement, que 3 des principaux polluants parmi les 10 venaient de la société Monsanto, qui est en transaction avec Bayer pour devenir Bayer Monsanto. Et c'est une société qui a commercialisé aussi, en tout cas la société mère, IG Farben, qui a travaillé beaucoup avec Hitler pour les gaz de concentration, le gaz sarin, qui est le plus toxique connu au monde, qui a été inventé comme un pesticide dans les années 1930. Ces personnes sont responsables de la commercialisation, d'autant que ce sont les seuls à faire les tests qui sont approuvés par les agences internationales qui permettent les approbations de pesticides et d'OGM. Et vous savez qu'il y a un lien, comme l'a démontré le professeur Forman, de 100% entre les OGM agricoles cultivés et l'utilisation de pesticides, je vais en reparler. Donc les points, c'est qu'on n'a jamais l'atteinte aux générations futures est démontré par le fait qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre à polluer et en nombre, qu'on n'a jamais autant épuisé nos ressources, qu'on n'a jamais autant pollué nos milieux de vie avec ces 400 polluants qui atteignent le génome et l'épigénome des fœtus et des enfants d'aujourd'hui. On n'a jamais autant modifié l'écosystème, le climat et le vivant. Et jamais autant changé la reproduction, puisqu'on modifie le patrimoine héréditaire des êtres vivants à une vitesse industrielle pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre. C'est l'histoire des OGM. Mais aussi l'histoire du clonage. On fait du clonage pour pouvoir exploiter les OGM animaux et du clonage humain avec l'exploitation du transhumanisme et des hommes améliorés. Ce sont des projets écrits par modification génétique et clonage humain. Pour donner un exemple du premier phénomène qui est le fait que nous n'ayons jamais été aussi nombreux sur Terre, on ne regarde jamais assez cette courbe exponentielle au cours des 10 derniers siècles de la population humaine. Vous voyez, ce n'est pas une génération qui a modifié... Ce n'est pas une génération qui a modifié, mais l'ensemble des sociétés épidémiques qui a connu cette modification. Et on a pris conscience de cela dans les années 70, donc c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Dans le même temps, la raréfaction des ressources, montrée par les sources disponibles d'eau douce pour la population qui a besoin, qui est à 80% la population mondiale autour de ces sources, c'est dramatique aujourd'hui. La première atteinte aux générations futures, c'est l'atteinte à ce qu'on appelle la résilience de l'écosystème, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter. On est dans des points de rupture, et ça, c'est une association pluridisciplinaire de scientifiques qui a pu le dire, qui est la plus grosse association pluridisciplinaire jamais créée, qu'on appelle le GIEC, le Groupement Interdisciplinaire d'Études sur le Climat. Et on voit qu'au cours du XXe siècle, on a la même croissance exponentielle du réchauffement. Je vous rappelle que ce réchauffement peut correspondre à un dérèglement qui peut être un refroidissement en certains points et des sécheresses et des inondations dans d'autres. La deuxième atteinte, c'est l'atteinte à la biodiversité. Et on sait que la sixième extinction, c'est admis par tous les biologistes, 1360 experts de 95 pays de l'ONU, l'homme en est responsable, l'humanité. Alors quand on dit l'humanité ou notre génération sur les générations futures, on ne doit pas oublier qu'on commet toujours une génération hâtive, puisque les produits qui sont responsables du réchauffement, qui sont des produits pétroliers ou du charbon, de l'énergie fossile qui a été mise en grande quantité à vitesse industrielle dans l'atmosphère et sur nos gènes, puisqu'on trouve des résidus de pétrole sur les gènes des enfants en grande quantité, et des plastifiants. On parlait d'Hawaï, au large d'Hawaï, il y a un continent grand comme 8 fois la France, de plastifiants qui viennent aussi du pétrole et que mangent les poissons. Et tous les poissons en contiennent sur la Terre. Et tous nos cerveaux, tous nos testicules, tous nos ovaires contiennent des produits issus du pétrole, soit des plastifiants, soit des pesticides en particulier. Et tous les pesticides contiennent des produits formulés, c'est-à-dire ils ne sont jamais commercialisés seuls tels que leur nom déclaré l'indique, mais avec des produits à base de pétrole. Prenons l'exemple du principal pesticide sur Terre, le Roundup. Il contient 40% de glyphosate et le reste sont des formulants à base de pétrole corrosif extrêmement toxiques qui jouent le rôle d'herbicide et qui jouent d'un facteur 1000 fois plus important sur la toxicité que le glyphosate lui-même, notamment au niveau des effets tératogènes en Argentine. Nous avons démontré cela sur les cellules de fœtus humains. Alors, nous atteignons la biodiversité par des crises. Ainsi, voyez, ça, c'est la disparition des dinosaures. Nous, et des ammonites et d'autres espèces, nous sommes à un niveau aujourd'hui comparable. Nous ne le voyons pas parce que nos milieux sont reconstitués de Hilton en Hilton sur la surface de la Terre. On voit toujours les mêmes plantes. Et il y a des petits îlots de préservés comme Hawaï ou d'autres, mais nous avons reconstitué notre environnement artificiellement. Les espèces déclinent et en particulier toutes les espèces diminuent de 20 à 30%, comme les abeilles dont on parle et qui ne sont qu'un marqueur équivalent et qui sont pollinisateurs. 20 à 30% des abeilles diminuent. Alors, comment s'en est-on rendu compte et qui est responsable? 80% des aigles, qu'on appelle pygargues, ont été atteints dans les grandes zones d'urbanisation et on a recherché une origine chimique. La libido ou la sexualité est un point d'impact premier parce que c'est là, dans le testicule, dans l'ovaire, que se multiplient le plus vite les cellules sexuelles. Dans le testicule, au cours de la vie adulte chez l'homme, et dans l'ovaire, au cours de la vie embryonnaire chez la femme. Les visons deviennent stériles à cause de résidus de polluants. Alors Monsanto, je vous le disais, était responsable des trois premiers. Donc le Roundup avec les formulants à base de pétrole et le glyphosate, les PCB et les dioxines, qui sont des résidus aussi brûlés de pétrole et de plastifiants, qui sont avec le composé orange qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Donc je n'ai pas travaillé sur les produits de Monsanto, et Monsanto ne nous a pas diffamés parce que j'avais envie de travailler sur Monsanto. Mais c'est parce qu'on a découvert que leurs produits étaient parmi les trois principaux polluants du génome du fœtus pour plusieurs générations. Quelle est l'ampleur de cette contamination? Elle atteint tous les laits humains de la planète. Et on l'a découvert avec le DTT. Elle atteint tous les cerveaux dans cette salle et tous les tissus humains et de l'écosystème. On s'en est rendu compte progressivement, d'abord avec les goélands qui nichaient ensemble, parce que les mâles devenaient stériles et les femelles donnaient des œufs stériles, mais elles nichaient ensemble. C'est elles qui ont réellement inventé le Pax. Les oiseaux de la colonie étaient contaminés par le DDT, un insecticide puissant, mais aussi par d'autres. Et c'était toujours des résidus de pétrole qui accompagnaient le DDT et ses autres produits. Donc, quand on parle de produits purs, le DDT, la trazine, les néonicotinoïdes ou le glyphosate, on se trompe. On ne se trompe pas parce qu'on fait une erreur scientifique, on se trompe parce que les grandes compagnies qui parlent de la commercialisation du glyphosate mentent. Le glyphosate n'est jamais utilisé pur en agronomie ou en agriculture, ou nulle part. Elles ne déclarent pas des produits confidentiels, et cela trompe à la fois les agences, les scientifiques qui n'ont pas accès aux données, parce qu'on a la magie de la composition du produit qui est confidentielle, et la magie des effets sanitaires qu'ils étudient pour la réglementation qui... Ces effets sont gardés de manière confidentielle. C'est-à-dire que les analyses de sang faites sur les animaux soumis à ces produits sont aussi confidentielles. Donc, en fait, on n'est pas dans la science, on est dans la magie industrielle. Parce que les produits sont confidentiels et les effets sanitaires sont confidentiels. Après, forcément, ça crée une confusion scientifique incroyable. On croit parler de rationalité, on parle de magie industrielle. Et tous ces produits, on les trouve dans tous les laits humains de la planète, pourtant. Vous savez, nos générations futures, quand elles survivront, parce qu'il y a des solutions, elles diront, mais ces gens, ils croyaient que la Terre était plate, en ne déclarant pas tout ce qu'il y avait dans les pesticides. On passera comme les gens du Moyen-Âge, où on ne comprend pas pourquoi ils croyaient vraiment que la Terre était plate avec l'enfer dessous. Parce que on croyait au glyphosate, alors que dedans, ils cachent des poisons 1000 fois plus toxiques dans les bidons de Roundup et d'autres pesticides à base de glyphosate qui ne s'appellent pas Roundup. Il y en a plus d'une centaine. Il y a des génériques. Alors, les contaminations par le DDT atteignent les oiseaux, le lait humain, et les spermatozoïdes, indice de multiplication vitale des cellules, chutent de 70% en quantité et en qualité en 70 ans, rapport de l'INVS. C'est-à-dire que Niels Kakebeck avait démontré de 50% en 50 ans, et l'Institut national de veille sanitaire en France a démontré que c'était 20% de plus depuis les années 2000. Donc en 2017, on a perdu 60% de quantité et de qualité des spermatozoïdes, qui est un indicateur de la vitalité des cellules. Les cancers, on focalise dessus parce qu'il y a une agence internationale sur le cancer. Quand on a soumis nos rats au Roundup, ils sont morts d'insuffisance rénale d'abord, grave, comme les agriculteurs du Sri Lanka, de tératogénèse. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? 2 minutes. Voilà, donc on a travaillé sur l'ensemble de ces pesticides et on a trouvé aussi les médicaments. Et on a trouvé qu'il y avait 3 phénomènes qu'on n'étudiait pas, parce que le droit s'applique sur et s'appuie sur l'épidémiologie. Le problème est que l'épidémiologie, dans ce système de confidentialité et surtout d'effets combinés à long terme, n'est pas la science à appliquer, parce qu'elle ne peut pas prouver les choses. Elle a été inventée pour étudier les épidémies, où les virus et les bactéries sont en fait des agents. Donc l'épidémiologie n'est pas la science à utiliser pour prouver par le droit que ces pesticides cachés ont des effets. Tout simplement parce que l'épidémiologie est impuissante à prouver des effets combinés et à long terme par nature. Toute science a ses limites et elle les connaît. Donc on va pouvoir trouver des bouts d'iceberg qui dépassent de temps en temps quand il y a eu surconsommation de certains polluants, mais on ne va pas pouvoir prouver les effets chroniques à long terme d'une consommation régulière. Alors comment faire pour mesurer les bioaccumulations, les effets combinés et les effets transgénérationnels et à long terme ? Eh bien, on a plusieurs... Nous, on travaille sur les cellules humaines et les animaux de laboratoire, mais on observe les effets sur les animaux sauvages et les cas humains. Et on a étudié plusieurs systèmes, les effets sur les cellules humaines, comprendre le mécanisme, les effets sur les organes, les effets sur les cas humains et non pas sur l'épidémiologie, les effets sur les animaux de laboratoire et les effets sur les animaux de ferme et les effets sur les animaux sauvages. Quand on a cet ensemble de données, il n'y a plus de doute scientifique possible sur l'origine d'une maladie due à une combinatoire de produits qui sont ces polluants à base de pétrole. Tous les pesticides contenant ces polluants très corrosifs à base de pétrole. Nous avons démontré que ces polluants étaient, avec cette étude dès 2005, 1000 fois plus toxiques que le glyphosate et qu'ils étaient présents dans tous les herbicides à base de glyphosate. Vous voyez la toxicité du glyphosate, qui est le seul régulé par les agences internationales, parce que ces 8 responsables, les 8 compagnies qui ont plus de la moitié de la richesse mondiale, ont fait une mauvaise déclaration intentionnelle, et ça relève du droit. Elles ont déclaré le glyphosate comme principe actif. Et nous avons démontré que ça n'était pas le glyphosate le principe actif, mais, et c'est publié, l'ensemble des polluants corrosifs à base de pétrole beaucoup plus oxydants, qui tuent 1000 fois plus les cellules, 1000 fois plus les animaux que le glyphosate tout seul. Et on retrouve sur les gènes des bébés ces résidus, ces pesticides, dioxines et autres. Alors je vais passer pour vous dire qu'il y a une augmentation des malformations. L'Argentine est un cas terrible, des maladies immunitaires, des cancers, etc. On se focalise sur les cancers, mais c'est un des effets. Et c'est ce qu'on appelle les pathologies environnementales. Alors, l'épigénome, c'est que ces produits restent collés sur l'ADN, ici, et se transmettent de génération en génération. Et on a démontré, Skinner, l'équipe de Skinner aux États-Unis dès 2000, que sur 5 générations, des rats traités avec des pesticides étaient évités par des femelles et avaient des problèmes hormonaux, parce que ces produits restaient collés sur le génome. C'est aujourd'hui des sciences bien établies. L'espérance de vie en baisse, et vous voyez comment on a travaillé trop sur les pathologies héréditaires et pas assez sur les pathologies environnementales qui sont soit microbiennes, ça on connaît bien, soit non microbiennes, c'est-à-dire chimiques, et le lien entre les deux. Ça reste la boîte noire de la science moderne, mais à travers laquelle on commence à voir par plein de trous de serrure. Et ça, ce sont les sciences que l'on peut utiliser à la place de l'épidémiologie pour appuyer le droit sur du pragmatisme. Et donc, il faut pour cela une révolution conceptuelle et comprendre que l'épidémiologie est une science qui a servi de manière très utile pour comprendre les épidémies modernes des pathologies microbiennes, mais qu'elle n'est pas utile pour les pathologies chimiques, tout simplement parce que ce sont des effets à long terme et combinés. Ce n'est pas un produit qui donne une chose, c'est une combinaison de produits, toujours et toujours. Et donc, quand il y a les limites à une science, on utilise une autre. Voilà des cellules fœtales contaminées, et voilà comment elles se dessèchent avec un peu de Roundup avant qu'ils soient même en concentration herbicide. Donc on est aujourd'hui l'équipe qui avons le plus publié au monde sur le Roundup et les OGM sur la santé. Plus de 80 publications. Et 40 en particulier sur le Roundup et d'autres pesticides. Et on s'est rendu compte que, par exemple, un enfant d'agriculteur, avait du glyphosate dans son urine sans être en contact, simplement avec les cheveux de son père le soir, qui avait épandu du pesticide et qui lui touchait, et l'enfant lui touchait la tête pour lui dire bonne nuit. Mais il n'avait été en contact ni avec le champ, ni avec le pesticide, ni avec des produits alimentaires traités dans la journée. Alors, on sait manipuler l'ADN et on sait prouver tout cela. Ça, c'est le lien entre les pesticides et les OGM. 100% des OGM contiennent des pesticides. Nous avons démontré qu'il y avait des effets, et je terminerai par là, du Roundup à des doses où on les trouve dans l'eau du robinet en France, donc vous imaginez à des doses supérieures, sur les tumeurs mammaires. Et ces images ont fait le tour de toutes les télévisions du monde et Monsanto a attaqué jusqu'à faire rétracter l'étude. On disait l'irrationalité de leurs arguments. Ce n'est pas les bons rats, il n'y a pas assez de rats. Et en fait, tout cela avait été... On a d'abord démontré la spécificité de nos études par une publication dans Nature en janvier 2017, mais aussi on a démontré, en faisant sortir les Monsanto Papers à l'été, que... Monsanto avait monté ses affaires en payant le rédacteur en chef de la revue Food and Chemical Toxicology, en faisant écrire une centaine de personnes qu'ils avaient payées, etc. 18 dossiers noirs sur notre étude et moi-même, révélés par les Monsanto Papers, et le lien avec les Paradise Papers va être fait bientôt. Donc il y a bien 8 grandes compagnies qui regroupent toute la puissance financière du monde, et qui développent des produits qui sont dans nos enfants aujourd'hui. On a compris que ces produits donnaient des malformations, des tumeurs, et donc maintenant on doit intégrer l'environnement de la manière dont je vous propose, c'est-à-dire en intégrant des nouvelles sciences, l'épigénome, l'épigénétique, les effets de l'environnement sur plusieurs générations, pour appuyer le droit sur des choses concrètes, en comprenant l'irrationalité du système fonctionnel d'aujourd'hui, c'est-à-dire je ne déclare pas la composition totale du produit. Le Roundup, on ne connaît pas la composition totale du produit, sauf quelques personnes compromises dans les agences. Et je ne déclare pas les effets sanitaires que j'ai étudiés pour avoir l'autorisation. Ça n'est pas public, les analyses de sang des rats qu'ils font, qui ne font que sur le glyphosate d'ailleurs. Donc on est en pleine magie. Donc on va lever ensemble cette irrationalité par la transparence, avec les Monsanto Papers et les Paradise Papers, on a commencé. Et ensuite, on va établir une science plus moderne qui se passe de l'épidémiologie. En ce moment, on travaille avec Catherine Forgui et d'autres avocats aux États-Unis qui ont mené la class action et qui en a donné les outils pour faire révéler les Monsanto Papers, avec 1400 personnes qui se plaignent des effets du Roundup sur les lymphomes, mais aussi sur d'autres maladies aux États-Unis. Et on arrête de chercher de l'épidémiologie qui prouverait qu'ils ont utilisé tant de Roundup et que c'est le glyphosate, en plus c'est pas le bon produit qui a été déclaré, qui aurait un effet, parce que là, on est sur un mur fantôme. Donc on a des moyens rationnels de lever ces ambiguïtés, ambiguïtés qui ont été construites et qui ne sont pas des erreurs, qui ont été construites par des firmes malhonnêtes qui sont 8 au monde. Donc déculpabilisez-vous, ce n'est pas une génération qui a des effets sur les générations futures, c'est 8 consortiums financiers qui ont des effets sur les générations futures. Et nous pouvons changer cela. Merci.